Ici, à la Bourse de Paris, les opérateurs font grise mine, peu de volume échangé, une baisse importante du CAC 40.
Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission.
Enfin, samedi, dernier jour de la semaine.
Il y a quelque chose qui me chiffonne, vous voyez ?
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce deuxième numéro du journal radiophonique amplifié. Toutes les deux semaines, nous vous proposons de revisiter l'actualité pendant environ 40 minutes en notre compagnie. Une petite revue de presse, une enquête, de l'économie et deux éditos, c'est ce que vous propose l'équipe de l'Amplifié. Et cette équipe, autour de moi, quatre belles voix pour faire vivre ce journal, Lino, Maëlys, Jérémy et Céline. Alors Céline, bonjour.
Bonjour.
Alors tu nous proposes à la veille du premier tour des départementales d'y voir un peu plus clair, je crois.
Oui, c'est bien ça, on va décrypter ce qui se passe en ce moment en France et notamment dans le paysage politique français.
Oui, un sujet vraiment très brûlant. Tout à l'heure, vous retrouverez Lino qui vous parlera comme d'habitude d'économie. Lino, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui ?
Eh bien, Clément, c'est la période des concours pour nos amis les agrégatifs, donc je vais parler du stress. Enfin... du stress des banques, le stress test.
Et on te retrouve tout à l'heure et on en profite pour souhaiter bonne chance à nos chers agrégatifs. Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une enquête à haute vitesse aujourd'hui, je
crois. C'est ça, chemin de fer et littérature.
Et enfin, Maëlys, bonjour.
Bonjour.
Donc toi, aujourd'hui, tu nous emmènes au Moyen-Orient.
Ouais, sujet chaud brûlant puisque je débriefe un peu les résultats de l'élection israélienne.
Oui, donc on a que du chaud, que du brûlant et que du polémique aujourd'hui. Mais alors, une fois que nous aurons entendu Maëlys, ne nous quittez pas surtout, puisque autour de la table, nous discuterons des différents sujets balayés aujourd'hui. Et tout de suite, commençons sans plus tarder avec quelques morceaux choisis dans la presse.
Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors ce sont bien évidemment les élections qui dominent l'actualité et les médias, avec quelques échauffements qui ont tourné sur la toile. Hein. Entre Florent Philippot proposant à Emmanuel Macron de l'herbe à chat pour qu'il se calme, lors d'un débat sur France 2, ou encore la vive altercation entre Manuel Valls et Marion Maréchal Le Pen à l'Assemblée nationale. Alors le Front National occupe tous les esprits dans ces élections, alors que le PS, lui, 3 ans après la victoire de François Hollande, s'attend à une véritable déculottée. L'inconnu, c'est l'ampleur de la défaite, notamment à cause du nouveau redécoupage des cantons, qui rend difficile toute prospective électorale. Et pourtant, certains médias proposent des analyses approfondies, à l'image de Mediapart, dans un dossier le 11 mars dernier. Pas-de-Calais, le risque d'un département ingouvernable ? L'article, cartes et interviews à l'appui, montre d'abord que dans les bassins miniers, là où les difficultés sociales sont les plus importantes, le vote Front National risque d'exploser.
Et le FN paraît relativement bien implanté maintenant, puisqu'il a remporté Hénin Beaumont au premier tour l'an dernier.
Bah oui, hein, cela lui donne une base territoriale assez sûre. Alors l'article note qu'avec même ou 10 ou 15 cantons, le parti d'extrême droite a peu de chances de bouleverser la majorité absolue de gauche à la Chambre. En revanche, le département pourrait devenir ingérable. Car si la gauche dispose d'une majorité plus que confortable, elle est en interne extrêmement divisée. Mediapart note que l'actuel président du Conseil Général, socialiste, élu après les européennes de l'an dernier, a été, au sein du parti, désigné en interne avec 21 voix pour et 20 contre. Le PS calaisien aurait-il enfin la gueule de bois après avoir abusé de l'affairisme et de la corruption ? En tout cas... Le PS national, lui, il espère encore. Hein. Libération, le 17 mars, nous rapporte que dans les meetings de Manuel Valls, on se croirait en pleine élection présidentielle. Le Premier ministre mise sur l'effet Valls.
Et à l'UMP, on s'en sort comment ?
Alors, si le parti d'opposition et ses alliés peuvent espérer des gains importants hein, lors de ces élections, c'est la situation en interne qui inquiète vraiment. Parce que hein, le Figaro, le 12 mars dernier, rappelait l'argumentaire du parti pour ces élections. Le journal citait Nicolas Sarkozy, qui fustigeait alors la politique territoriale de la gauche. Et loin d'être à une contradiction près, hein, Nicolas Sarkozy considérait que la politique de baisse des dotations aux collectivités était, je cite, « démesurée et injuste ». Alors que pendant son mandat, il a toujours voulu se présenter comme le chantre de la réduction des dépenses publiques. Bon, quoi qu'il en soit, hein, même si dans un tweet, Bruno Le Maire assure que l'actuel président aura toute sa part dans la victoire, il n'est pas sûr que le cœur y soit. L'effet Sarkozy ne prend plus, excepté chez les militants, le parti est criblé de dettes. Et surtout, Sarkozy, comme ses proches, sont empêtrés dans des affaires.
Et c'est un très proche de l'ancien président qui est visé en ce moment.
Oui, vraiment très proche, puisqu'il s'agit de Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée et ancien ministre de l'Intérieur sous le mandat de Nicolas Sarkozy. À défaut d'avoir étayé les soupçons portant sur le financement des activités politiques de Nicolas Sarkozy, les juges Serge Tournaire et René Groumans ont conforté ceux pesant sur le train de vie de son ancien bras droit, Claude Guéant, écrivent Gérard Davet et Fabrice Lhomme dans Le Monde. Claude Guéant est supposé d'avoir blanchi, derrière une vente de tableaux, il est supposé d'avoir blanchi de l'argent libyen qui aurait servi au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et les deux auteurs de l'article notent que, outre le trajet qu'ont suivi ces tableaux, ainsi que le trajet de l'argent qui les a payés, leur prix a été largement plus élevé que ceux auxquels le marché de l'art les estimait.
Une affaire à suivre, donc. Bon, je sais qu'on est en semaine d'élection, mais on pourrait parler d'autre chose un peu, non ?
Oui, tu as raison. Pensons à Israël hein, en ce moment et les élections qui ont eu lieu ce mardi 17 mars pour élire la Knesset, le Parlement israélien. Bye bye Bibi, comme le titre Libération ? En tout cas, c'est l'objectif de la gauche de chasser Benjamin Netanyahou du pouvoir. Et le Figaro le note aussi dans un titre un peu plus neutre. Alors on suivra évidemment la question hein, tout à l'heure dans le journal radiophonique amplifié avec Maëlys. Hein. Et quant au départemental, Céline vous en reparle tout à l'heure. Et nous aborderons bien sûr à nouveau le sujet dans la discussion en fin d'émission. Mais pour l'heure, cessons momentanément de parler de politique et parlons des Alpes. Lyon-Turin, une parole contraire est-elle possible ? Aujourd'hui, l'enquête nous emmène à la rencontre d'une région, d'un projet et d'un homme, non ?
Oui, nous sommes à quelques centaines de kilomètres d'ici, mais d'une certaine manière à des années-lumière de la France et de ce qui nous préoccupe ici. Nous sommes dans le Val de Suse, en Italie, à l'ouest du Piémont et pas très loin de Turin. C'est une région escarpée et étroite, mais qui déchaîne l'avidité. En 1991, quelques technocrates de la Commission européenne, sans doute après un déjeuner un peu arrosé, ont eu l'idée d'une titanesque liaison ferroviaire qui relierait Lyon à l'Europe centrale, jusqu'en Ukraine. Alors il ne reste plus aujourd'hui qu'un projet de liaison transalpine Lyon-Turin qui déchaîne les polémiques. L'objectif, ce serait de désengorger les liaisons existantes et de rapprocher Lyon de Turin, pour stimuler le fret surtout. Mais le projet se traîne depuis 20 ans, et dans l'intervalle, on a commencé à douter son utilité. Parce que le trafic transalpin, en 20 ans, n'a pas cessé de diminuer. En parallèle, par contre, ce qui a augmenté, c'est le coût global du projet. On l'évaluait en 2002 à 12 milliards, et dernièrement, on avoisine les 29 milliards. Ce qui fait quelque peu grincer des dents. D'autant plus qu'on ne sait pas très bien qui va payer. Un accord a été signé entre la France et l'Italie, mais tout cela reste bien opaque.
Et tout ça nous éloigne un peu du Val de Suse, Jérémy.
Mais non, car c'est là que tout se joue. Le cœur du projet, ce serait le percement d'un tunnel de 57 km qui partirait précisément du Val de Suse et pour lequel les travaux ont commencé en janvier. Mais les habitants s'y opposent. Car en plus d'être superflu, ce serait un désastre écologique dans une région déjà saturée d'infrastructures. C'est donc dans le Piémont qu'est né un mouvement de contestation, le mouvement Notav, mouvement qui a essaimé dans toute l'Italie.
Le mouvement de contestation a fait l'actualité en Italie ces derniers mois, donc.
Oui, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la protestation a progressivement gagné en ampleur, à mesure que la date de lancement des travaux approchait d'abord, et puis surtout parce que la lutte s'est dotée d'un porte-parole, qui n'avait certes pas demandé. Elle a fini par s'incarner dans une figure d'écrivain et d'intellectuel, celle de l'écrivain napolitain Eri De Luca, romancier, poète et traducteur déjà très prolifique. En septembre 2013, dans une interview téléphonique pour le Huffington Post italien, il a commis l'imprudence de déclarer que, je cite, « la TAV doit être sabotée » et d'ajouter que c'est à cela que servent les cisailles. Alors, la provocation sur ce sujet déjà très sensible n'a pas plu du tout à la LTF, la société privée chargée d'encadrer les travaux. Donc, Eri De Luca s'est retrouvé mis en examen pour incitation à la délinquance. Un délit qui est loin d'être mineur parce que la ville où il encourageait à commettre des sabotages a été déclarée par l'État zone d'intérêt stratégique national. Ce sont donc les services antiterroristes en personne qui sont allés chez lui à Rome l'informer de sa mise en examen.
Et c'est parce qu'il est napolitain que son cas a autant attiré l'attention ou...
Non, et il n'est bien sûr pas le seul militant notable à être poursuivi en justice. Une cinquantaine ont déjà été sévèrement condamnés. Mais son cas particulier illustre avec force l'irritabilité des concepteurs du projet, leur collusion aussi avec des potentats locaux qui espèrent profiter des retombées financières, et surtout la promptitude avec laquelle la justice italienne s'est réprimée lorsqu'elle est mue par des intérêts privés. Alors, dans l'opinion publique italienne, une partie, souvent à la marge des formations politiques et des médias traditionnels qui soutiennent le projet Lyon-Turin, une partie s'est rangée derrière Eri De Luca pour en faire un emblème de résistance. Donc le voici depuis un an, invité à s'exprimer un peu partout sur les quelques mots qu'il a déclarés au Huffington Post.
In discussione in questo momento. Questo mio piccolo caso è un caso di censura nei confronti della libertà di parola e di espressione di una persona, di un cittadino italiano.
Alors, outre ses interventions dans les médias, c'est par un livre qu'Eri De Luca a choisi de se défendre.
Mais oui, il n'est pas écrivain pour rien, c'est certain. Alors, pour mieux se faire entendre dans le vacarme médiatique, il a choisi d'en revenir au rythme et à la voix de l'écriture. En janvier dernier, à quelques jours de son audience, il a publié un essai intitulé « La parole contraire ». Et c'est un petit ouvrage qui vaut la peine d'être lu, parce qu'il éclaire d'une lumière nouvelle l'ensemble de la polémique. C'est un pamphlet en forme de plaidoyer pro-domo, mais aussi de réquisitoire contre ses accusateurs. Une pénétrante réflexion sur la parole politique, son poids et ses pouvoirs, sur l'utopie et la lutte dans le Val-de-Suse, une lutte qu'il voit comme une utopie qui ne cherche pas à créer un lieu qui n'existe pas encore, mais au contraire à en préserver un qui existe déjà. Et aussi, puisqu'on l'accuse d'incitation, d'instigation au sabotage, c'est le mot utilisé en italien, une réflexion sur la littérature comme instigation justement. Instigation à la réflexion, à la justice et au rassemblement d'une communauté d'esprit. Parce que c'est bien cela qui est en jeu dans le Val-de-Suse. La défense d'une communauté d'hommes contre une liaison qui ne va relier que des intérêts économiques et désagréger pour de bon toute une collectivité enracinée dans un environnement lui appartenant. L'audience de janvier a été ajournée et a finalement eu lieu lundi et mardi dernier. Verdict dans quelques mois.
Une question loin d'être résolue, donc. Le Lyon-Turin, peut-être un autre Notre-Dame-des-Landes ? On suivra le dossier, hein, évidemment. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser une question à vous autour de la table. Est-ce que vous êtes stressé ? Dites-moi. Allez, répondez-moi. Êtes-vous stressé ? Oui, non ?
Là maintenant ?
Oui, là maintenant.
Un petit peu.
Un petit peu, bon.
J'ai pas encore fait ma chronique.
Moi, plus du tout.
Oh, et toi, Céline ?
Non, pas particulièrement.
Bon, bah, on va dire que vous êtes bien, tu n'es qu'un petit peu stressé, Maëlys. Rassurez-vous, hein, vous allez le rester, car ce sont les banques qui ont stressé. Après un jingle, c'est ce que Lino va nous expliquer. Alors Lino, ces derniers jours, on a entendu parler à plusieurs reprises de stress test. De quoi s'agit-il ?
Alors, pour comprendre ce dont il s'agit, on va d'abord se replonger dans la crise financière. Avant la crise, les banques centrales ne s'étaient pas données pour mission de contrôler la stabilité financière. Bon, bien sûr, les banques centrales n'étaient pas insensibles aux risques de bulles financières, mais elles ne combattaient pas explicitement leur formation. Les banquiers centraux préféraient nettoyer le désordre après coup plutôt que de ramer contre le vent de l'emballement excessif des marchés. Face à l'ampleur de la crise, les banques centrales ont en fait révisé cette doctrine et décidé d'être plus interventionnistes. Et l'un des aspects de cette intervention est le stress test.
Et quel en est le principe alors ?
Mais en fait, on évalue la capacité des banques à résister aux tensions sur les marchés et en particulier à la dégringolade du prix des actifs financiers, l'éclatement de la bulle. Les banques et assurances, les principaux acteurs sur les marchés financiers, ont comme fonction de traiter le risque, puisque toute activité de prêt est par nature risquée. Vous risquez de ne pas retrouver le capital que vous prêtez, raison d'ailleurs pour laquelle vous allez exiger des intérêts, qui va être la rémunération du risque. Mais bon, le problème avec le risque, c'est qu'il expose les banques, et en dernière instance, ceux qui prêtent, les ménages à des pertes importantes si le marché s'écroule.
Et là, on parle de pertes énormes, hein, puisque l'exposition provoquée par la faillite de Lehman Brothers en 2008 représentait un chiffre absolument immense.
Oui, les engagements nets de Lehman Brothers, auxquels il avait fallu se substituer lorsqu'elle a déclaré faillite, représentaient le même montant que le PIB annuel du Japon. Donc c'est déjà énorme. Mais si en plus on considère les engagements bruts, c'est-à-dire sans compenser les plus et les moins, on ajoute tout, c'était un an de PIB mondial.
Ah oui, là c'est plus immense, c'est carrément gargantuesque. Et comment on évalue l'exposition au risque ?
On oblige bien sûr depuis longtemps les banques à couvrir leurs risques et on a de nombreuses mesures du risque, on utilise en fait des modèles de probabilité. Pour couvrir le risque, on définit des réglementations prudentielles. Prudentielles, c'est ce qui renvoie à la gestion du risque, en fait, à s'assurer contre le risque. Les réglementations prudentielles sont anciennes, dès les années 80, ça a commencé. Et ce ne sont pas exactement les mêmes en Europe et aux États-Unis, mais grosso modo, on peut dire qu'elles suivent les préconisations du comité de Bâle, qui est l'entité chargée de définir ces réglementations et qui a proposé un ensemble de réglementations qui, en fait, évoluaient constamment. Avant la crise, on en était à Bâle 2 Reloaded et on va bientôt passer à Bâle 3 Revolution. Alors, les principales mesures de gestion du risque préconisées par le comité de Bâle sont ce que l'on appelle les couvertures en fonds propres. En gros, les fonds propres, c'est le capital qu'une banque possède réellement pour faire face aux difficultés et au remous de son activité. Plus ce capital est important, relativement à la taille de la banque bien sûr, hein, plus elle est protégée. Le principe de Bâle 2, qui était les réglementations prudentielles d'avant-crise, c'est d'imposer une couverture en fonds propres proportionnelle au risque pris. C'est ce qu'on appelle les réglementations micro-prudentielles. Plus l'actif est risqué, plus il faut appliquer une couverture en fonds propres importante. Le risque d'un actif était mesuré par la note des agences de notation, raison pour laquelle elles ont, depuis une vingtaine d'années, acquis une importance si grande sur le marché, importance qui a émergé lors de la crise de 2007-2008. Un actif qui était noté AAA, par exemple les subprimes, exigeait une faible couverture en fonds propres, par exemple.
Et cette définition du risque d'un titre, elle a évolué avec la crise financière ?
Oui, heureusement, et c'est pour ça qu'on a proposé des stress tests. Vous voyez, je vous ai parlé d'agences de notation, de AAA, de subprimes. En fait, c'est l'une des faillites de la réglementation micro-prudentielle d'avant-crise. C'est que l'on n'avait pas considéré les risques systémiques. Alors tout d'abord, dans l'après-crise, le Bâle 3 propose des couvertures en fonds propres beaucoup plus importantes pour les opérations risquées. Donc déjà, elle exige des réglementations micro-prudentielles plus strictes. Et ensuite, c'est là le cœur de Bâle 3, on a pris en compte un risque complètement négligé avant 2008, qui était le risque systémique. Il s'agit d'exiger des banques les plus grosses qu'elles se couvrent plus.
Et donc c'est ça les coussins systémiques en fait. Les plus grosses banques qui font courir un risque systémique vont plus se couvrir. Donc en fait la crise financière elle a amené une réflexion approfondie sur la couverture du risque, prenant mieux en compte les interdépendances des acteurs et les possibilités que le marché s'écroule d'un coup. Et en pratique, ça prend quelle forme ces stress tests ?
Alors, les banques centrales demandent aux banques commerciales des extraits de bilan à différentes dates. Et les banques centrales vont définir deux scénarios d'évolution des variables macroéconomiques. Un premier scénario, qui est le scénario central, et un scénario de stagnation. Il y a une croissance molle du PIB de l'ordre de 1% par an. Le chômage diminue faiblement, le prix des actifs suit une dynamique normale, pas de bulle, pas d'explosion, une dynamique normale. Et ensuite, et c'est ça le stress, il y a un scénario sous tension, un effondrement du marché financier qui provoque d'abord une récession, puis une stagnation, et qui ensuite entraîne une hausse du chômage, etc. En fait, donc une vraie détérioration des variables macroéconomiques. Et il s'agit d'étudier la résistance des banques à ce scénario stressé. Par exemple, de voir quelles seraient les pertes des banques sous ce scénario.
Et donc certaines banques, en particulier Goldman Sachs, ont échoué à ce test.
Oui, parce que là, je vous parle de scénarios, mais en fait, derrière, il y a des exigences qui sont très fortes, en particulier les exigences en fonds propres qui sont très fortes, qui sont même trop fortes pour certains acteurs qui jouent ce qu'on appelle un rôle de market maker sur certains marchés. Par exemple, Goldman Sachs est un des grands acteurs sur certains marchés de gré à gré et en fait fait le marché. Il a fallu alors minorer les exigences parce que ces couvertures en fonds propres très fortes amenaient les banques à se précipiter vers les titres de dette publique, ce qui fait chuter les taux d'intérêt et qui explique que les dettes, par exemple, françaises ou allemandes soient à taux d'intérêt négatif actuellement. Et en plus, Ce phénomène de banque qui court après les titres de dette est en contradiction avec le quantitative easing qui est actuellement mené et la volonté qu'affiche Mario Draghi de détourner les marchés financiers de ces titres pour prendre un peu de risque qui permettrait en fait la relance de la croissance.
Espérons au moins que cela nous évitera une nouvelle crise financière.
Ah, j'en doute, hélas. Un jour, je vous parlerai des chambres de compensation et peut-être de la prochaine crise financière. En attendant, les stress tests et les réglementations macro-prudentielles sont une bonne chose, mais elles ne nous empêcheront, hélas, jamais une crise financière.
Alors merci Lino pour ces explications sur un événement qui gagnerait à être un peu plus médiatisé. Et niveau médiatisation, ce sont les élections de dimanche qui raflent le haut du panier. Je vous l'avais promis tout à l'heure, Céline, après un jingle, tu vas faire le point sur le scrutin.
Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors déjà, en effet, un potentiel grand vainqueur pour ces élections, et ça finit par devenir une habitude, l'abstention. Début mars, pour un sondage IFOP-JDD, 57% des personnes interrogées déclaraient ne pas vouloir aller voter le 22 mars. Parmi elles, on trouve les moins de 35 ans, les ouvriers et les employés qui constitueraient le plus gros des abstentionnistes. Alors bien sûr, maintenant la question, c'est à qui profite l'abstention ? Un nom sur toutes les lèvres là encore depuis des mois. Vous vous en doutez, le Front National s'affiche d'ores et déjà comme le premier parti de France. Et après tout, il y a de quoi ? Toutes les enquêtes d'opinion donnent le FN entre 30 et 33% d'intention de vote, sur un taux de participation de 42% environ. On relativise les choses donc, mais si les sondages s'avèrent proches de la réalité, la percée du Front National, réédition des élections européennes de mai 2014 mais au niveau local, atteindrait vraiment une autre ampleur. Parce que ces chiffres permettent aux candidats FN, dans au moins la moitié des cantons, de se hisser au second tour. Tandis que le PS, avec ses 20% d'intention de vote, la faible mobilisation de son électorat ainsi que les divisions à gauche, va se retrouver éliminée. Donc dans un duel UMP-FN, la victoire du premier est plausible, mais pas dans tous les cas. Enfin, dans d'autres terrains plus favorables pour le PS, des triangulaires sont à prévoir, mais aussi des duels PS-FN. Et là, autant dire que les barrières entre la droite et l'extrême droite pourraient être franchies assez aisément. On aura donc des élus frontistes dans les départements, sans majorité pourtant, et l'UMP se retrouvera devant de nouveaux choix cornéliens. Pourtant, la droite et le centre se frottent les mains d'avance à la tête de 41 départements sur 101 actuellement. Ils pourraient au minimum en gagner une vingtaine, et non des moindres. Des départements symboliques, comme la Corrèze et l'Essonne par exemple, les chasses gardées respectives de François Hollande et de Manuel Valls. C'est aussi en Vendée que la droite espère marquer les esprits avec un grand chelem en bonne et due forme. Elle espère conquérir tous les élus du département se faisant élire dans tous les cantons. Par contre, pour les départements qui passeraient de droite à gauche, on peut chercher longtemps, a priori seule la Lozère est dans ce cas de figure, en comptant une forte mobilisation des électeurs de gauche aux deux tours. Mais justement, on se demande où est la gauche en ce moment. Alors du côté du PS, François Hollande et Manuel Valls tentent de sauver les meubles. Toute la semaine dernière, ils ont sillonné la France en se distribuant les rôles du bon et du méchant flic. À Valls, le discours sur la France qui a peur du FN, les annonces anxiogènes et offensives du type « J'ai peur pour mon pays, j'ai peur qu'il se fracasse contre le Front National », nous dit Manuel Valls avec tonitruance. À François Hollande, l'annonce des bonnes nouvelles, le discours sur la France qui gagne, la France réconciliée aussi, réconciliée avec sa gauche, avec les frondeurs, bref, le mot d'ordre est à l'apaisement. Le président de la République veut mettre l'accent sur la reprise économique qu'il sent arriver en France. Il sent que c'est le bon moment de valoriser cette France qui gagne, peut-on ainsi lire dans son entretien au magazine hebdomadaire Challenge le 12 mars dernier. C'est cette même conviction qui, dit-on dans son entourage, l'a fait se déplacer dans l'Isère pour visiter des entreprises innovantes. Un département susceptible de tomber dans l'escarcelle de la droite. Mais pour mieux rassembler derrière le PS, François Hollande a aussi reçu les frondeurs à l'Élysée pour un apéritif la semaine dernière. Comme un équilibriste, il a en même temps annoncé qu'il ne changera pas de politique, ni de Premier ministre, quels que soient les résultats des départementales. Ce serait pour lui l'occasion d'opérer un large remaniement, tenter peut-être d'introduire des divisions au sein des frondeurs de son propre camp, et aussi d'ouvrir le gouvernement aux écologistes favorables à sa politique. Mais les écologistes, justement, où sont-ils dans cette bataille électorale aux enjeux cruciaux pour le pays ? Eh bien, nulle part, on serait tenté de dire, et d'appliquer pour eux cette phrase de Jean-Christophe Cambadélis, actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, Je cite, « La gauche commet un suicide politique en direct. Sommés de clarifier leur ligne par le PS, les Verts sont tiraillés entre la ligne intransigeante de Cécile Duflot, qui a quitté le gouvernement il y a maintenant un an, pour se rapprocher de la gauche de la gauche, et ceux qui aimeraient bien revenir, comme Jean-Vincent Flacé. Le résultat, c'est un éparpillement jamais vu des écologistes. Certains font alliance avec le Front de Gauche, d'autres avec les socialistes, et d'autres font cavalier seul pour un baroud d'honneur écologiste qui ne servira à rien ni personne. » Le résultat, c'est aussi pour l'instant 2 à 3% des intentions de vote. Et puis, on a Daniel Cohn-Bendit, jamais à court d'idées pour sortir les Verts du pétrin. L'écologie n'est pas de gauche, assène-t-il avec conviction. Et d'ajouter qu'un candidat écologiste devra participer en 2017 à la primaire à gauche, et que ce même candidat écologiste devra participer également à la primaire à droite, pour se recentrer au sein du jeu politique. Avouez-le, en ce moment, la droite, la gauche, moi je confonds tout. À ceux enfin qui s'inquiéteraient pour le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, dont la ligne pro-Poutine fait des remous au sein du parti, la situation vire à la catastrophe. Le Parti communiste pourrait bien perdre ses deux derniers départements, l'Allier et le Val-de-Marne, où le PC règne notamment sans interruption depuis 39 ans. La fin d'une époque, en somme.
Merci Céline pour ce tableau à la veille de ce premier tour des départementales. Il est effectivement difficile d'y voir clair, d'autant plus qu'il semble que le ministère de l'Intérieur brouille des étiquettes. Je vous laisse sur cette interrogation, on y revient tout à l'heure lors de la discussion. Et il est maintenant temps d'écouter Maëlys et de partir en Israël.
Merci Clément. Ça y est, c'est officiel depuis hier soir, Benjamin Netanyahou et le parti du Likoud ont remporté une large victoire aux législatives israéliennes, score qualifié d'excellent alors que jusqu'au dernier moment, les pronostics étaient serrés entre son parti conservateur et le parti de centre-gauche, l'Union sioniste, emmené par Isaac Herzog. Mais c'est finalement le Premier ministre sortant qui a fait la différence, et ce pour la quatrième fois, félicitations aux vainqueurs. À travers ce vote, les Israéliens ont visiblement plébiscité la politique de fermeté de Netanyahou. Bon, peut-être un peu trop ferme, on l'a vu l'été dernier. À l'heure où la situation au Moyen-Orient est hors de contrôle, c'est le moins qu'on puisse dire, et à l'heure du rapprochement inédit américano-iranien, oui, le grand méchant Iran qui a juré la mort d'Israël. En s'étant troublé, c'est bien le choix de la sécurité et du patriotisme juif qui a été fait. Mais... attention, battement de tambour, Clément. Tout n'est pas encore gagné puisque le Premier ministre doit maintenant former une coalition à la Knesset et que la chose pourrait être beaucoup plus ardue qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, les sièges de la Knesset, au nombre de 120, sont répartis entre une dizaine de petits partis qui ne seront pas faciles à convaincre. Le Likoud n'ayant obtenu que 29 sièges, c'est-à-dire la moitié moins de la majorité absolue, donc 120 divisé par 2 plus 1, 61, pour gouverner.
Pour une grande victoire, c'est une grande victoire.
Voilà. Pour gouverner, il va falloir cravacher sec les gars. Bref, si une alliance avec la gauche n'est ni souhaitée ni envisageable après que Netanyahou ait rejeté l'option d'un gouvernement d'union nationale, il aurait pu envisager une union avec le parti centriste Kulanu, dirigé par Moshe Kalon, désormais arbitre de ces élections entre Netanyahou et Herzog. Cet ancien du Likoud, favorable à la solution des deux États, a été échaudé par les postures autoritaires de son parti d'origine. Les relations entre Kalon et Netanyahou, nous dit le journal Le Monde dans un article publié ce matin, sont exécrables. Dissidence oblige. Les interlocuteurs possibles pour Benjamin Netanyahou se font de plus en plus rares. Les alliances potentielles se font de plus en plus difficiles à nouer. A fortiori après 3 mandats, quand les autres leaders pensent que vous avez déjà fait vos preuves et que votre programme politique n'apportera rien de nouveau sous le soleil. Mais cette campagne n'aura pas été non plus sans surprise. Tous les observateurs politiques ont relevé les nombreuses maladresses de la campagne de Netanyahou. En témoigne la visite surprise du Premier ministre au Congrès américain, qui a un peu court-circuité l'administration d'Obama, alors même que les relations n'étaient pas au beau fixe entre les deux pays. Dans un article de Mediapart, publié il y a 10 jours, donc déjà un peu ancien, on apprend que la Maison-Blanche n'a été prévenue que quelques minutes avant l'annonce publique de cette invitation. Voilà, voilà. Même entre amis, même en famille, comme a insisté Netanyahou devant le Congrès, je cite « Dans une famille, les désaccords sont toujours désagréables, mais nous devons nous rappeler que nous sommes d'une famille. » Cela ne se fait pas, ce n'est pas très poli. Bref, Netanyahou est rentré dans le livre des records. Il est devenu le premier chef d'État à s'exprimer devant le Congrès sans l'accord de la Maison-Blanche. L'opération séduction à l'initiative d'élus républicains du Congrès pour parer la politique iranienne de Barack Obama a logiquement été mal perçue par les démocrates et le président en personne. Pire, alors qu'Israël a toujours été soutenu par les Américains, notamment grâce au tout-puissant lobby de l'AIPAC, AIPAC, invariablement supporter de la politique patriotique ferme d'Israël, On apprend que ce lobby n'est plus autant soutenu par la communauté juive américaine au profit de nouveaux groupes de pression, tels que le J Street, créé en 2008, qui se définissent comme pro-paix et proposent une alternative libérale au soutien inconditionnel à Israël. Bref, c'est un changement de fond qui est en train de s'opérer et qui pourra bientôt peut-être bouleverser la donne dans la politique étrangère américaine. De même, pendant cette campagne, les projecteurs n'auront pas été seulement braqués sur la danse électorale de Netanyahou. Autre surprise, le score record de la Ligue arabe unie, arrivé troisième au scrutin, qui réunit une myriade de petits partis qui se veulent les représentants des musulmans israéliens, qui ne représentent que 20% de la population totale du pays, et qui pâtissent de nombreuses discriminations et d'une sous-représentation politique. Et, chose inédite, des Israéliens de confession juive ont fait leur entrée dans ces partis. Bref, le changement dans la continuité.
Merci Maëlys. Alors, chers auditeurs, ce parcours dans l'actualité est plus ou moins brûlante, hein, touche à sa fin. Mais ne fermez pas encore les players, car nous restons avec vous dans la dernière partie de l'émission, la discussion, plus interactive comme son nom l'indique, où nous réagissons à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Et alors maintenant sur la série...
Un doodle ?
Non. Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et c'est...
On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et j'ai...
J'y passe tous les jours.
Alors avant de commencer cette discussion, souhaitons bon courage à Lino, hein, qui ne peut pas être avec nous en raison de ses partiels. Alors, le premier sujet sur lequel je voudrais revenir, ce sont les départementales, évidemment. On viendra sur le Lyon-Turin après. Alors d'abord, sur les départementales, est-ce que vous avez compris ma petite allusion qui était que le ministère de l'Intérieur brouillerait le scrutin?
Non.
Non.
Moi non.
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 Alors, parce que j'ai vu... Maëlys, non ?
Non, j'attends, je suis dans l'expectative, là. Parce
que j'ai vu passer sur le site du Monde, il y a deux semaines peut-être, un article dans lequel notamment les petits partis, notamment le Front de Gauche ou les écologistes, se plaignaient de l'attribution des étiquettes par le ministère de l'Intérieur, qui aurait peut-être tendance à mettre sous une étiquette divers gauche ce qui n'est pas divers gauche, ou à brouiller un petit peu les étiquettes. Bon, c'était pour ouvrir ça sur une note un petit peu comique. Alors, maintenant, redevenons un peu sérieux. Dans votre département, qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes optimiste ou pas, Céline ?
Moi, je suis persuadée que la Haute-Loire va rester à droite. Donc ça, c'est un classique. On est très marqué par cette tendance politique. Après, ça ne m'étonnerait pas non plus que l'EFN fasse une percée.
Tu nous avais parlé de ces 8 candidats FN de la même famille la dernière
six.
Fois.
6, pardon. N'exagérons rien.
N'exagérons rien. Alors, Jérémy, toi, tu viens de l'Oise,
oui,
il me semble.
Et donc, c'est l'un des départements où le FN est vraiment très en pointe et l'un des départements dans lequel il a statistiquement des chances de remporter les élections pour de bon. S'il ne les remportait pas, ce serait un UMP qui était déjà président du département il y a une quinzaine d'années. Donc, vraiment, l'innovation au pouvoir.
Oui. Et puis l'Oise, il me semble que dans le cadre d'une fusion de la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais, rendrait probable
oui,
ou
comme ça,
possible
y aurait
au régional.
Une grosse région FN, ils auraient tout un territoire rien qu'à eux. Ils pourraient prendre leur indépendance ou quelque chose comme ça.
Jérémy vient de parler d'innovation politique, mais le problème est sans doute aussi de l'offre politique. Moi, je sais qu'en Haute-Loire, la liste concurrente à la liste représentée par la droite n'est pas forcément très convaincante, avec des candidats de gauche, enfin des candidats PS qui ont monté une liste concurrente parce qu'il fallait une liste concurrente pour qu'il y ait le jeu démocratique. Mais l'impression que ça donne, c'est surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de conviction, pas beaucoup d'espoir de gagner non plus. Parce
c'est
que...
pas très sérieux non plus.
Exactement. Du coup, le problème est aussi sans doute du côté de cette offre politique qu'on n'a pas.
Et alors Maëlys, est-ce qu'on est un peu plus sérieux à Caen ou...
Alors, dans le Calvados, la Normandie en général, ça a toujours été une région un peu tangente, plutôt à droite, mais qui ces derniers temps...
Elle a tendance à suivre un peu les tendances nationales.
C'est ça, et moi je suis pas trop au courant du Calvados, de la situation en ce moment, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis pas allée, mais je rentre le week-end prochain pour faire mon devoir de citoyenne. Moi je me rappelle juste qu'au dernier département. C'est pas les départementales, c'était l'année dernière, c'était
les
européennes et les municipales. Le Front National, le 25 mai notamment, avait vraiment fait un score record dans certains villages à côté de chez moi. Marine Le Pen est arrivée en tête, chose qui n'était pas envisageable il y a 5 ou 10 ans. Et donc je suis pas plus optimiste pour le Calvados que pour le reste de la France, malheureusement.
Alors sur un autre point sur ces départementales, donc Céline, tu nous as rappelé l'implication de Manuel Valls dans cette campagne, une implication extrêmement importante. Est-ce qu'il a raison de s'impliquer autant dans cette campagne? Est-ce qu'il a raison de se mettre autant en avant, à votre avis?
Moi, je pense qu'il fait aussi un dialogue par médias interposés avec Nicolas Sarkozy. On a un peu un combat de coq, on va dire, en prévision des prochaines grandes élections nationales. Mmh. Et c'est assez sensible dans la manière dont ils se répondent. Alors, j'avais entendu ça hier, mais Nicolas Sarkozy lui avait adressé une pique auquel Manuel Valls a immédiatement répondu. Bon. Mais voilà, on a aussi cet aspect-là qui est sans doute présent. Après, bien sûr, il fait son rôle de Premier ministre.
Oui, c'est son rôle naturel en tant que Premier ministre et chef de la majorité de mener la campagne. Après, il fait ça très très mal. essayer, oui, comme ça, de chercher la polémique à tout prix avec Sarkozy.
Le FN.
Et le FN, oui. Et se poser en héros de la lutte contre le FN.
Oui, parce qu'il revendique qu'il stigmatise Marine Le Pen, il l'a dit.
Avec toujours ces arguments moraux de la part du PS qui sont absolument affligeants. Non, c'est très mauvais. Mm.
Et puis on a quand même le sentiment que le PS est complètement déconnecté de la réalité. Enfin, cet article de Libération que j'évoquais un peu plus tôt, dans lequel la journaliste, j'ai oublié qui c'était, nous explique qu'on se croirait vraiment en meeting présidentiel avec du monde, des drapeaux. Manuel Valls qui arrive en disant « Ah bah tu vois, on aurait dû louer une salle plus grande ». Enfin, on a quand même le sentiment d'une grande déconnexion de la réalité du parti au pouvoir.
Mais la situation est quand même assez catastrophique pour le PS depuis 3 ans. Est-ce qu'ils font pas semblant aussi? Enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas dans un dernier élan de comme quoi faut quand même mener ces élections, etc. Mais est-ce qu'ils croient vraiment au discours qu'ils portent ou pas? Enfin, moi, c'est la question que je me pose quand devant une salle comble de militants PS, alors que dans tout le pays, on critique le Parti Socialiste depuis 3 ans. C'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Leur cote de popularité est au plus bas dans les sondages. Est-ce qu'ils y croient vraiment ou pas, en fait? Moi, c'est plus la question que je me pose quand je vois ça.
Ouais, c'est une question légitime. Et puisqu'on parle de cote de popularité, on sait que celle de François Hollande, qui était remontée après le 11 janvier, est de nouveau redescendue dans les limbes des instituts de sondage. Est-ce que cela vous paraît tenable pour le président de la République d'annoncer qu'il ne changera absolument rien, qu'il ne changera pas de Premier ministre, qu'il ne changera pas de politique, et qu'on l'aime ou qu'on le quitte, concrètement?
Je vais répondre. C'est l'interview à Challenge la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. C'est comme d'habitude de sa part une tentative de créer une rhétorique de la fermeté. Nous avons un cap, nous n'en changerons pas. Ça, c'était, le cap, c'était la grande métaphore de Jean-Marc Ayrault, qui nous manque beaucoup. c'est vraiment, on est dans l'abnégation la plus totale, parce que il n'est pas temps que la politique menée ne change pas, ne marche pas, que sa popularité, c'est pas un indicateur très stable, mais quand même révélateur que rien ne va. Et je ne sais pas à quoi ça sert, ces grandes déclarations pompeuses.
À la limite, si on était stressé tout à l'heure, nous voilà rassurés, François Hollande reste cohérent et il reste jusqu'au bout. On a au moins ça pour nous.
Alors, tu parlais de Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, notre défunt Premier ministre, prédécesseur de Manuel Valls. Alors, je comparais en rigolant, bien sûr, le Lyon-Turin à Notre-Dame-des-Landes. Alors déjà, en aviez-vous entendu parler de ce projet de Lyon-Turin?
Très très vaguement, vraiment de loin, et justement c'est fascinant de voir à quel point ça ne passe presque pas la frontière. Il y a de temps en temps des manifestations en Savoie, mais ça va jamais bien plus loin que ça. Même Lyon, qui n'est pas si loin, qui est concerné au premier chef, ça nous atteint pas, donc presque pas. Ça n'a aucune visibilité en France.
Mmh. On a le sentiment qu'il y a eu quelques années une inflation de ces gros projets.
En fait, peut-être qu'on n'a pas tant une inflation des gros projets qu'une inflation des mouvements de contestation contre ces projets qui ont beaucoup plus justement de visibilité, à qui on donne beaucoup plus la parole. Et puis, c'est tous les soirs des zadistes aussi. Un mouvement qui va à la contestation, qui veut donner aussi plus de parole aux populations locales, à ceux qui vont vivre sur place avec ces projets. C'est bien, je trouve.
Oui. Après, moi, je pense que c'est toujours très, très difficile à trancher, parce qu'en même temps, ces projets-là, qu'on le veuille ou non, ils ont aussi été décidés par des représentants qui ont été élus.
Et donc, je pense que c'est bien. Enfin, à chaque fois, on peut toujours arguer les lobbies d'industriels, etc., qui font pression sur les politiques pour mettre en place ces projets-là. Mais c'est le problème, c'est qu'on a d'un côté des gens qui se veulent les défenseurs de la nature, etc., mais qui n'ont aucune légitimité électorale. Et en face, on a des représentants qui ont été élus par le peuple et qui sont censés représenter la volonté des gens.
Alors après, il faut sans doute s'intéresser aux situations beaucoup plus spécifiques et les prendre les unes après les autres.
Oui, bien sûr.
Regarder ce qui s'est passé, mais il y a quand même eu des cas où il n'y a absolument pas eu de consultation populaire. Alors je pense que c'est aussi la moindre des choses avant de faire un projet ou alors au moment de vraiment mettre en place ce projet, d'y réfléchir, etc., d'associer aussi simplement les habitants qui vivent à côté, de les associer, oui. de les faire venir et de parler ensemble. Or, pour quand même, alors je vais dire une grande partie, mais en fait, ça ne représente rien. Donc, or, pour certains de ces projets, ça n'a pas été fait. Ce qui explique aussi aujourd'hui la contestation d'une certaine partie de ces personnes.
On a un peu le sentiment que ces stress tests sont là parce qu'il faut les faire. Ils ont une utilité et ils permettent beaucoup de choses. Lino nous l'a expliqué. Mais est-ce qu'il faut... Ça remet sur la table un débat. Faut-il aller plus loin dans l'intégration économique des États européens pour plus de régulation? C'est des débats qui sont très actuels, notamment depuis l'ouvrage de Thomas Piketty qui a suscité une intense réflexion. Qu'en pensez-vous? Un avis? Une réaction?
Le problème, c'est que... Parti comme les choses sont, si on intègre encore plus les États européens, ce ne sera pas pour plus de régulation, mais au contraire pour encore plus de laisser-faire. Donc, oui. Personnellement, je préfère qu'on en reste là pour le moment plutôt que de faire n'importe quoi.
Oui. Et puis, c'est aussi que l'intégration économique, elle se fait à deux vitesses. On a d'un côté l'économie réelle, de l'autre côté l'économie monétaire. Or, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a une politique monétaire qui est commune pour tout le monde et des réalités économiques qui sont différentes dans chaque État.
D'un état à l'autre.
Et donc, on est obligé d'avoir une politique monétaire unique pour tout le monde qui ne convient pas forcément aux nuances et aux différences entre ces pays-là. Donc, il y a forcément des pays qui vont être laissés sur le carreau, dont la politique monétaire va ralentir en fait l'économie réelle et ça c'est problématique. On ne peut pas rester comme ça dans un entre-deux qui favorise certains au détriment d'autres en fait.
Oui. Merci à tous pour cette discussion toujours très intéressante et pour ces réactions toujours nourries. Le journal touche à sa fin, chers auditeurs. Alors merci à ENS Media qui a assuré la technique vaillamment comme toujours. Nous espérons que ce deuxième numéro vous a intéressé et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 4 avril. Une semaine après le deuxième tour des élections et le lendemain du troisième tour, l'élection des présidents des conseils généraux, on fera un bilan de ces élections. Et puis, il est possible que Lino vous parle de cette reprise économique que Céline évoquait et à laquelle se raccroche François Hollande. Sur le reste, suspense, à dans 2 semaines. Right. Baba, baba.